Le journal d'Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Début 2021 marqué partout dans le monde par les campagnes de vaccination contre le Covid-19. En Europe, on craint l'essoufflement de la production de vaccins. Dans ce journal, focus sur la France qui accélère un peu son calendrier. Israël qui craint la rupture de stock alors que les contaminations sont au plus haut. Et enfin la Suisse qui reconnaît avoir très mal géré la deuxième vague du virus.
Aux États-Unis, Donald Trump ne reconnaît toujours pas sa défaite et utilise tous les moyens pour tenter de tordre le résultat des élections.
Nous irons au Niger également où 100 personnes ont été massacrées dans deux villages par des djihadistes.
Enfin, nous entendrons un jeune agriculteur entrepreneur qui se lance dans la culture du coton dans le Gers. Un avant-goût de la nouvelle chronique de la rédaction L'Écho en transition.
Et après ce journal, le billet politique de Frédéric Saïs reviendra sur la stratégie vaccinale française. Mais d'abord, il est devenu pour ses soutiens le symbole de la liberté d'informer. Pour ceux qui le poursuivent, en revanche, c'est un terroriste high-tech. Le sort de Julian Assange, fondateur de Wikileaks en 2006, devenu célèbre en 2010 pour avoir rendu public des centaines de milliers de documents américains en lien avec le 11 septembre, la guerre en Irak ou en Afghanistan. Le sort de Julian Assange, donc, est entre les mains d'une juge britannique qui doit annoncer à 11h de Paris si elle accepte de remettre l'Australien aux mains de la justice. Justice américaine. Les États-Unis veulent le juger pour espionnage, même si l'administration Obama avait cessé les poursuites avant que l'administration Trump ne les relance. L'image de celui qui était d'abord apparu comme un héros traqué s'est brouillée au fil des ans, notamment après la divulgation des emails d'Hillary Clinton en pleine campagne présidentielle. Julian Assange est pour l'instant incarcéré dans une prison près de Londres, où ses conditions de détention ont été dénoncées par le rapporteur de l'ONU sur la torture. Sur place, à Londres, le récit de Richard Place.
Dans sa cellule de la prison de Belmarsh, le détenu Assange dit entendre des voix. Sa défense évoque des pulsions suicidaires. Et pendant l'audience, les experts médicaux ont confirmé sa dépression profonde. Un psychiatre affirme même qu'il pourrait faire une tentative de suicide s'il sent l'imminence de l'extradition. S'ajoutent à ces tourments les rumeurs insistantes ces dernières semaines, celles d'une possible grâce accordée par Donald Trump. Une torture supplémentaire pour Julian Assange, dit son avocat français Antoine V.
Trump avait déjà joué un peu avec Assange et ça continue encore aujourd'hui. Vous savez, je pense que pour un homme, attendre toutes les nuits pour savoir si éventuellement il va être gracié par un individu et quelque chose qui est une souffrance et une torture tout à fait inacceptable. Maintenant, on peut encore espérer que dans un éclair de lucidité, Donald Trump décide de défaire ce qu'il a lui-même fait, c'est-à-dire décide de ne pas demander l'extradition d'Assange.
Les autorités américaines estiment que son travail a mis en danger leurs agents à travers le monde. Elles le traquent sans relâche depuis des années. Les partisans de Julian Assange louent son travail nécessaire pour la démocratie et la liberté d'expression. Pour eux, il n'a fait que délivrer au monde des informations exactes.
La décision rendue par la Cour britannique ne sera pas définitive. Chacune des parties pourra faire appel. En attendant, Julian Assange a reçu ces derniers jours le soutien de plusieurs élus et responsables allemands, notamment, qui estiment qu'au travers de cette future décision, c'est la liberté de la presse qui est en jeu. L'autre actualité de ce 4 janvier, c'est toujours cette campagne de vaccination française dont la lenteur au démarrage a suscité la colère d'Emmanuel Macron. Il faut agir plus vite et plus fort, aurait demandé le chef de l'État à ses ministres et aux responsables des autorités sanitaires. Et de fait, plusieurs médecins s'agacent des lenteurs administratives et de la lourdeur des procédures. En comparaison, d'autres voisins européens semblent injecter, eux, à tour de bras. Signe que l'accélération est en marche. Toutefois, en France, la possibilité offerte pour les soignants de plus de 50 ans de se faire vacciner dès aujourd'hui, alors qu'elle était d'abord prévue pour février. Une annonce bien accueillie par les premiers concernés. Le reportage de Marion Ferrer.
Ils sont 1 200 000 soignants concernés et d'ici fin janvier, ils devraient être tous vaccinés. Médecins généralistes, infirmiers, aides-soignants ou encore paramédicaux. Parmi eux, Marc Sauvadet, podologue dans les Yvelines.
Traité pour hypertension et 62 ans, donc je fais partie des personnes qui doivent faire très attention. Si j'ai la possibilité de me faire vacciner, oui, je me ferai vacciner. Je crois que c'est pour ma sécurité et celle de mes patients puis de ma famille.
Ce vaccin, pour lui, est nécessaire. Il juge la campagne française bien trop longue au démarrage.
C'est trop lent. Puis en France, il y a trop d'administratifs avant de pouvoir avoir l'autorisation de vacciner quelqu'un. Il faudrait quand même qu'on accélère les vaccinations. Ça prend un peu trop de temps maintenant si on veut être efficace.
Sentiment partagé dans le grand test par le docteur Patrick Vogt. Ce généraliste pratique à Mulhouse. À 64 ans, il a été contaminé au printemps dernier, mais ne se sent pas invincible. Et se faire vacciner, c'est aussi pour lui montrer l'exemple.
Il y a beaucoup de gens, une personne sur deux, qui présentent des doutes quand ils viennent me voir. Et la question est, et vous, que ferez-vous? Et moi, je leur dis clairement, je me ferai vacciner dès que c'est possible, parce que je pense que c'est un bénéfice. Ce vaccin, c'est la seule arme vraiment efficace qu'on a contre les virus, je crois qu'il faut qu'on se vaccine.
Les soignants hospitaliers seront les premiers vaccinés. Ensuite, pour les professionnels se trouvant en ville, il faudra se déplacer dans la centaine d'hôpitaux où sont déjà stockés les flacons du vaccin.
Et même si en Allemagne ou au Royaume-Uni, les taux de vaccination sont bien plus élevés, la production générale du sérum est en train de s'essouffler. L'Union européenne reconnaissait samedi une insuffisance mondiale des capacités de production. Sa commissaire à la santé a affirmé que Bruxelles se tenait prête à aider si besoin. L'Union européenne, qui avait commandé 200 millions de doses du vaccin Pfizer-BioNTech, a pris une option pour 100 millions supplémentaires pour 2021. En Israël, où la population continue à prendre d'assaut les centres de vaccination, plus d'1 100 000 personnes ont reçu une première dose, mais les dispensaires approchent de la rupture de stock à un moment où la pandémie sévit de plus belle. Les précisions sur place à Jérusalem de Michel Paul.
C'est une véritable course contre la montre qui a été lancée en Israël. D'un côté, un nombre de nouvelles contaminations à la hausse et une troisième vague du Covid-19. Et de l'autre, une campagne de vaccination effrénée. L'objectif, selon les autorités sanitaires, est la vaccination d'ici la fin du mois de janvier de 2 millions de personnes, les plus de 60 ans et les équipes médicales qui devraient avoir reçu d'ici là la double injection du vaccin Pfizer-BioNTech. Mais en attendant, Israël va devoir ralentir le rythme de la campagne de vaccination pour pouvoir réapprovisionner les stocks de vaccins. Selon le programme qui a été présenté initialement, le pays pourrait reprendre une vie relativement normale vers la fin du mois de mars. Mais pour l'heure, le troisième confinement en vigueur en Israël n'est que très vaguement suivi. Le gouvernement essaie à grande peine, en cette période électorale, de faire adopter des mesures restrictives plus sévères, notamment la fermeture de tout le système scolaire.
Enfin, en Suisse, qui était lors de la première vague considérée comme le bon élève de la gestion de la pandémie, l'heure est au mea culpa. Nous avons sous-estimé la situation, admet le président de la Confédération helvétique. Et pour cause, la Suisse est aujourd'hui le 7e pays le plus touché en nombre de décès pour 100 000 habitants. À Genève, Jérémy Lanche.
Nous pensions pouvoir maîtriser le virus, nous en étions loin. Les mots de Guy Parmelin, qui prend la présidence de la Confédération suisse pour 2021, résonnent comme un aveu. Celui d'une Suisse qui n'a pas su élever son niveau de vigilance face à la hausse des contaminations. La task force en charge de la lutte contre la pandémie a pourtant alerté, délété et à plusieurs reprises contre la hausse inquiétante des infections. Mais les divisions entre les cantons et parfois au sein même du gouvernement sur la stratégie à adopter ont fait le jeu de la pandémie. On a par exemple, vu la ministre de la Santé du canton de Zurich se plaindre dans la presse de ne pas être écoutée par ses pairs sur la gravité de la situation, alors même que son parti demandait la réouverture des restaurants. Devant la forte diffusion du virus, les cantons de Vaud, du Valais et de Neuchâtel ont par ailleurs décidé de fermer les buvettes ouvertes sur les pistes de ski. Celles-ci restent ouvertes. Le mot de confinement, quasiment tabou en Suisse, n'est toujours pas à l'ordre du jour.
Et puis le Japon envisage à nouveau l'état d'urgence, au moins dans la région du Grand Tokyo, face à la recrudescence des contaminations au coronavirus. Au Japon, où, il faut le préciser, la campagne de vaccination n'a pas encore commencé. Le gouvernement se prépare donc à modifier la loi pour pouvoir sanctionner les établissements qui ne respecteraient pas les injonctions à restreindre leurs horaires. Le Premier ministre japonais a par ailleurs réaffirmé l'engagement du Japon à organiser les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, reportés à l'été 2021.
8h09 sur France Culture, la suite du journal d'Anne-Laure Chouin.
Il ne sera plus président dans 16 jours et pourtant Donald Trump refuse toujours de concéder sa défaite face à Joe Biden. Pour cela, il utilise tous les moyens et notamment cet appel téléphonique stupéfiant dont les journalistes du Washington Post ont pu se procurer l'enregistrement. Un appel de Donald Trump donc au responsable républicain en charge des élections en Géorgie, un état où le résultat a été très serré et a vu le candidat démocrate l'emporter. Un état où par ailleurs se joue en ce moment une autre élection sénatoriale décisive. Donald Trump a donc tranquillement demandé à ce responsable de trouver les voies lui permettant d'annuler sa défaite. Le récit de notre correspondant à Washington, Sébastien Paour.
Trump répète plusieurs fois qu'il ne peut pas avoir perdu la Géorgie.
We have won this election.
D'après ce qu'il a entendu, et il appelle clairement le secrétaire de l'État à falsifier les résultats de l'élection du 3 novembre. Il n'y a rien de mal à dire que vous avez recompté. Tout ce que je veux, c'est juste trouver 11 780 voix, c'est-à-dire une de plus que ce que nous avons. Les machines de vote modifiées, les bulletins scannés plusieurs fois, ceux déposés par des personnes décédées, à chaque accusation de fraude, Brad Raffensperger répond poliment et fermement. Monsieur le Président, nos chiffres parlent pour nous, nous pensons qu'ils sont justes. Trump le menace ensuite de possibles conséquences judiciaires. C'est une infraction pénale, c'est un grand risque. Pour toi et pour Ryan, ton avocat, c'est un gros risque. Et celui qui est encore président pour 16 jours reconnaît finalement qu'il ne parvient pas à convaincre son interlocuteur que cet appel ne mène nulle part.
Sébastien Paour. C'est le pire massacre de civils au Niger, un pays pourtant régulièrement victime d'attaques djihadistes. Samedi, 100 personnes sont mortes dans les attaques de deux villages de l'ouest du pays. Deux attaques terroristes donc dans une région hautement instable. Nadine Epstein.
Plusieurs attaques ont été commises simultanément par des militants islamistes dans deux villages du Niger, proches de la frontière avec le Mali. À Tchomabangou, 70 civils ont été tués et 30 morts à Zaroumadaraï, 7 kilomètres plus loin. Ces agressions ont été perpétrées par des terroristes venus à bord d'une centaine de motos, selon un responsable politique local. Elles interviennent au lendemain de l'annonce des résultats des élections présidentielles du 27 décembre, résultats qui donnent largement en tête le candidat au pouvoir, Mohamed Bazoum, l'ex-ministre de l'Intérieur, a obtenu 39,33% et il a promis de renforcer la lutte contre les groupes djihadistes. Cette région, appelée la région des trois frontières, Niger, Mali, Burkina, est une région ensanglantée et théâtre d'attaques islamistes liées à Al-Qaïda et Daesh. L'an dernier, des centaines de personnes ont été tuées. Cette zone a aussi été visée par le groupe djihadiste Boko Haram qui, en 2020, a massacré une cinquantaine de personnes, dont beaucoup d'enfants.
Un mariage stratégique entre Fiat et Peugeot. Les actionnaires des deux groupes doivent valider aujourd'hui l'union des deux géants de l'automobile. Un mariage franco-italo-américain censé éviter aux entités en question de péricliter. Cette nouvelle concentration doit donner naissance au quatrième groupe automobile mondial en termes de voitures vendues et au troisième en chiffre d'affaires derrière le japonais Toyota et l'allemand Volkswagen. Le nouveau groupe s'appellera Stellantis, comptera plus de 400 000 salariés et regroupera 14 marques emblématiques comme Citroën ou Maserati. Un nouveau rendez-vous de la rédaction pour finir ce journal. Tous les lundis, désormais, vous aurez rendez-vous dans notre journal de 18h avec l'écho en transition qui s'intéresse à des projets innovants, des entrepreneurs audacieux ou encore des citoyens engagés. Et ce soir, on commence avec trois jeunes agriculteurs-entrepreneurs qui cultivent du coton dans le Gers pour confectionner des polos 100% made in France. Leur société s'appelle Jean-Fil, il y a bien un jeu de mots, et c'est Johan De Witt qui nous raconte cette aventure au micro d'Annabelle Grelier.
Quand on a fait les deux premiers hectares, on les a semés, on n'a rien dit à personne. Et on a dit on verra bien, au moins si on se plante, on se plante, mais on aura essayé. Et puis du coup, ça a marché la première année, donc on a tenté la deuxième année. Et là, on a commencé à communiquer en disant, ben voilà, nous on fait du coton en France, on y arrive. Et là, les gens nous ont pris pour des fous, ils disent, mais c'est pas possible. Beaucoup sont venus voir sur place en disant, mais non, mais c'est pas possible. Et si, c'est possible. Et on a réussi, même au-delà de ça, de faire pousser le coton, on a réussi à le faire transformer tout en France. Et on est parti, on a pris nos voitures, on est parti à la rencontre de filatures, de tricoteurs, de teintures. Et tous ces gens ont eu une explosion d'envie quand ils nous ont vu arriver en disant, mais on a envie de bosser avec vous, c'est génial, le projet est génial. Il y a plein de prestataires qui, la première année, nous ont même pas fait payer les prestations, ils nous ont aidés. Et c'est fantastique. C'est fantastique. Et puis nous, on n'y connaissait rien. On savait acheter des vêtements, comme tout le monde, mais on savait pas les transformer ou les faire. Et on a appris les méthodes de filature, on a appris les méthodes de tricotage, de teinture, on a tout appris. Et maintenant, aujourd'hui, on est agriculteur et on sait aussi maîtriser la partie textile. C'est ça qui est génial.
L'écho en transition, ce sera donc un reportage à retrouver dans le journal de 18h. Et c'est aussi un article web à lire sur franceculture.fr. Le temps de ce lundi, il sera gris et neigeux par endroits, notamment dans les Pays de la Loire, le centre Val-de-Loire, Bourgogne et la Champagne-Ardenne ce matin, puis au nord de la Seine cet après-midi. Des averses sur le littoral de la Côte d'Azur et de possibles chutes de neige en cours de journée dans la basse vallée du Rhône. Ailleurs, temps gris avec de rares éclaircies. Les températures comptaient au plus chaud de 2 à 5 degrés sur les deux tiers nord du pays, de 5 à 9 sur le tiers sud.
Merci beaucoup Anne-Laure Choin, ça vous a fait réagir Bernard Pivot, car Bernard Pivot est notre invité, ce reportage il y a quelques instants.
Oui, parce que cet homme qui découvre comment faire des vêtements, etc., c'est une note d'optimisme dans cette catastrophe actualité, cette catastrophique actualité. Donc moi je suis preneur comme ça de ses voix. En plus de ça, il a un accent du Midi formidable, il parle bien, etc. J'ai envie de le connaître.
Alors, Choin, vous n'avez pas son téléphone. On va essayer de vous trouver ça. Bernard Pivot publie « Mais la vie continue » chez Albin Michel. On se retrouve dans quelques instants, dans 30 minutes environ. Vous retrouverez la transition d'Hervé Gardette, le carnet de philosophie de Géraldine Mosna-Savoie. Et puis Arnaud Laporte donnera la parole à un artiste. Et dans quelques instants, le billet politique. Frédéric Saïs, bonjour.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
Et ce matin, Frédéric, une grosse colère.
Oui, celle d'Emmanuel Macron, agacé par la lenteur de la campagne de vaccination. Nous verrons ce que cache cette colère.
Dans quelques instants.